Vous écoutez
RMC.
Le Big Bang, je suis pas spécialiste de
géophysique.
Voilà. C'est deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la Terre, quoi.
La Terre.
Merci Daniel.
Donc la conception d'un enfant, c'est un Big Bang en fait.
Je ne sais pas. Franchement, c'est.
Oui. Alors, t'as commencé à parler hier de cette inconstance des grosses écuries de Ligue 1. Tu voulais
plus qu'une inconstance, c'est une mauvaise passe.
Tu voulais développer.
Une mauvaise passe qui arrive au mauvais moment parce que c'est le moment des Coupes d'Europe. Et à force d'entendre, et je ne m'exclus pas des critiques, bien sûr, je suis dedans puisque je constate moi aussi que nos clubs ne sont pas bons en ce moment et ne jouent pas bien. Et nos clubs, je parle desquels, de ceux qui vont être engagés en Coupe d'Europe, de nos clubs phares. Le PSG, c'est bien parti contre le Real, mais j'espère que, alors bon, comme le Real a beaucoup d'absents, j'espère que ça va passer. Il y a des tirages qui sont pas mauvais. Mais la forme actuelle de nos clubs m'inquiète un peu. Lyon, Porto, Monaco,
Braga. C'est un mauvais tirage pour Lyon. Tu rigoles ou quoi? T'as vu Porto, ils sont en feu. Ils ont battu leur record de
l'année. Hier soir, ils ont pas réussi à battre Gilles Vicente.
Ils sont quand même sur une super dynamique depuis de nombreux mois. C'est compliqué, Porto.
De toute façon, je te l'accorderai, parce qu'à chaque fois qu'une équipe française prend Porto, ça débouche le champagne, ce qui est une aberration.
Et comme Monaco.
Puisque Porto met une raclée à chaque fois à tous les clubs français. Peu importe. De toute façon, ce sera jamais une bonne affaire de jouer un club portugais. C'est toujours dangereux. Mais ça, on a du mal à le comprendre chez nous. Bref, cette mauvaise passe arrive au moment où Lyon essaye de se redresser, va prendre la Coupe d'Europe de plein fouet dans la tronche et Porto, c'est pas simple. Monaco, Braga, le Monaco en ce moment, franchement, il est très inquiétant. On sait jamais réellement son niveau. Rennes joue super bien. C'est probablement l'équipe qui joue le mieux en Ligue 1 en ce moment là. Depuis que Flo est rennais, tout va mieux. Ils prennent un club anglais dont on connaît pas réellement la motivation dans cette Conference League, mais c'est quand même un club de première ligue et ça va pas être simple. Je trouve qu'il y a quelques motifs. Bon, j'ai pas parlé de l'OM. Bon, alors le football suisse, et je crois qu'on en parlera bientôt, et en pleine tourmente.
Ils ont perdu leur rapport en plus.
Tout à fait.
Ça va pas très fort. Mais franchement, quand on a vu Marseille contre Karabakh et même dans la phase de poule qui a fait un peu n'importe quoi, même dans des matchs où ils dominaient largement, je trouve que cette mauvaise passe et toutes ces critiques, parce que finalement on s'aperçoit qu'on critique tout le monde, tous les entraîneurs sont critiqués en ce moment, Pochettino, Boss, Sampaoli, les deux seuls qu'on critique pas et qui Genesio. Sont très bien d'ailleurs, Genesio et le pote de Gilbert, Julien Stéphan, qui travaillent bien, qui se sont trouvés un super cadre et un super contexte pour bien bosser. Mais Strasbourg n'est pas en Coupe d'Europe. Donc voilà, je trouve que ça tombe mal. Je trouve que la période est pas satisfaisante. On a fait une,
mais attends,
on a
juste, fait une tu, première tu phase de quand de t'as commencé à t'inquiéter quand?
Bah, écoute, la première partie de saison, on avait des bons matchs en championnat, des équipes qui se tiraient la bourre, et surtout quelque chose de totalement nouveau pour nous. Et je ne veux pas qu'on me dise ouais, il y a eu une enflammade ou ceci ou cela. Il y a un constat simple, c'est que on passait des semaines de Coupe d'Europe à prendre des tartes dans la gueule pendant 10, 20 ans, et que là, pour la première fois, même si ça vaut rien, même si c'est que de la phase de poule, mais on va avoir en mars des jeudis soirs avec 4 équipes. Et on a, dans la phase de poule, obtenu un nombre de points à l'indice UEFA qu'on n'avait pas obtenu depuis des décennies. Donc, quoi qu'il en soit, la période était
positive. Il faut avouer que cette saison, contrairement aux saisons précédentes où on avait des invités, entre guillemets, un petit peu surprises en Coupe d'Europe du style Saint-Etienne, là, c'est quand même les grosses équipes qui se sont toutes qualifiées.
Ok. On a eu
c'est une grosse différence.
On a eu des jeudis qu'on n'avait pas eu dans l'histoire de la
Mais avec des Saint-Etienne, des Bordeaux, des clubs
qui sont quoi les grosses
équipes? Si sur 16 ans, t'as pris que des tartes. Ça veut pas dire que sur 16 ans, c'était une affaire de tirage ou une affaire de
Je te donne juste un mini
argument. Tu as pris un nombre de points à l'indice UEFA que tu n'as jamais pris.
Oui.
Donc, c'était positif, cette première partie de saison. Tu peux y mettre tous les bémols que tu veux. C'est quelque chose auquel on n'était pas habitué. On l'a vécu. Au moment où arrive le mois de mars, ça, je trouve, réduirait à néant tous les espoirs qu'on avait dans la politique des clubs, qui ont fait des recrutements plutôt malins, des choix de coach, un football plus offensif. J'aimerais pas qu'on reste à quai. Il y a 4 équipes, je parle des équipes du jeudi soir, parce que Lille, on va perdre Lille. Le PSG, c'est la Ligue des Champions. Quand on parle de foot français, le PSG, pour moi, c'est toujours à exclure. on a le jeudi. Le jeudi, on a quatre équipes. Alors, ok, il y a la Conference League, mais moi, je dis toujours, il faut pas péter plus haut que son cul. C'est une Coupe d'Europe qui est certainement à la mesure de certains de nos clubs. Donc, autant y aller. Et pour Rennes, vu son passé en Coupe d'Europe, être dans la Conference League, c'est très bien. Et pourvu qu'ils aillent plus loin. Mais on va voir ce que ça va donner. Je trouve que la mauvaise passe de nos clubs arrive pas au bon moment. Je suis assez inquiet parce que je vois dans les matchs, c'est pas bon. Lyon, c'est pas bon. Marseille, c'est pas bon. Monaco, c'est pas bon. Ce sont nos clubs phares. Lyon, c'est beaucoup mieux. Mais il va falloir passer l'épreuve de la Coupe d'Europe face à une équipe de première ligue. Franchement, c'est pas, tu vois, c'est pas gagné d'avance quand même.
Flo, voilà. Ton avis à toi?
Bah écoute, le seul truc, oui, c'est vrai sur le constat ponctuel.
Je suis inquiet.
Le constat ponctuel peut-être, mais quand on regarde, alors j'exclus l'OM qui effectivement joue moins bien, mais Lyon joue mieux qu'il n'a joué. Alors qu'ils se sont, voilà, ils vont jouer Braga, ça me semble pas, enfin, totalement insupportable.
Porto, pardon.
Ouais. Ils vont jouer Porto, mais ça me semble pas insupportable, infaisable pour Lyon.
Ouais, mais c'est parce que tu les as pas eu cette saison, les autres.
Non, mais peut-être, mais en tout cas, je pense que Lyon peut battre Braga,
Porto,
et Monaco peut battre Braga. Donc, pour prendre les deux de l'Europa League. Après, pour ce qui est de l'OM, ils ont encore un tirage très correct par rapport à Bâle.
Laurent Sand l'avait parti à la Fiorentina pour remplacer Vlahovic en plus.
Voilà. Et Rennes, c'est un peu de toute façon l'équipe, enfin, on va dire surprise et qui n'a pas de pression contre Leicester, mais Rennes peut très bien faire du mal à Leicester également.
Leicester peut-être s'en foutra de la conférence.
Ouais,
un détail sur Leicester, ils ont 3 ou 4 matchs de retard à jouer en PL, donc ils vont avoir un calendrier dingue au moment où il y aura la confrontation.
Donc moi, sur ce que je vois depuis le début de la saison et même récemment, et y compris avec Lille. De ce que Lille a fait contre Chelsea avec la différence de niveau qu'il y a, je trouve que le vrai changement, la vraie révolution, c'est la façon dont les clubs français abordent les Coupes d'Europe. Et l'absence de complexe qu'il y a pu avoir à une époque, qui n'existe vraiment plus, et qui explique que quand Rennes a joué Tottenham, par exemple, en début de saison, ou quand Lille est entré dans sa Ligue des Champions et dans sa phase de poule de manière remarquable, il y a quelque chose de psychologique qui fait que les joueurs haussent leur niveau. Quand en plus, comme Lyon, t'as un effectif plus que correct, ou même Monaco, bah tu dois pouvoir jouer cette Coupe d'Europe. Donc oui, ponctuellement on peut être inquiet parce que le contenu des matchs, je dirais notamment de Monaco et de Marseille, est moins bon. Mais de ce que j'ai vu de l'OL et même et de Rennes récemment, pas forcément. Donc je partage pas forcément son inquiétude, hein, Daniel. Je pense même qu'on peut vivre encore de beaux jeudis.
Moi, j'ai bien peur qu'à les jeux après les deux tours là, il y ait juste Marseille qui soit qualifié, hein, que les trois autres soient à la trappe. Honnêtement, non mais vraiment, parce que Porto, je pense qu'on s'en rend pas compte. Je pense que Leicester, même s'ils ont du mal en championnat, ça reste quand même un effectif avec beaucoup de qualité. Et Braga, c'est quatrième du championnat portugais. Daniel a raison. À chaque fois, on pense qu'on va péter plus haut que notre cul, mais les Portugais nous mettent la misère, surtout en Ligue Europa ou en Coupe UEFA auparavant. Donc je pense que vraiment, à part Marseille qui a eu le cul bordé de nouilles au tirage, les autres, ça va passer à la trappe. Et on va arriver au même débat. Je pense que la belle embellie qu'on a vue en première partie de saison, il faudra aussi l'analyser, regarder quelle équipe était qualifiée, la composition des groupes, sans cracher dans la soupe, parce qu'on a vécu des beaux jeudis. Mais au final, le bilan global qu'on tirera à la fin de la saison du parcours des clubs français en Coupe d'Europe, il sera aussi négatif que les années précédentes. Et je rajoute une chose, c'est que toutes les équipes pour lesquelles, Daniel, tu es inquiet, moi, je trouve que à part des périodes comme ça sur 4-5 matchs, ces équipes n'ont jamais été régulières depuis le début de la saison. Ouais, et il n'y a aucune équipe qui a 2 points de moyenne par match. C'est quand même catastrophique.
On ne demande pas de régularité, sur la Coupe d'Europe. Justement, c'est là où je voulais en venir. Si les coachs et les dirigeants de Monaco et de Lyon, par exemple, peuvent faire un bon boulot de motivation, c'est de dire à ces équipes-là que quel que soit le parcours en championnat, il suffit d'un investissement sur peu de matchs pour arriver à sortir une sorte d'épopée.
Ouais. Et
oui, et oui, et ben c'est important. C'est
mais
pour
Porto,
ça que. C'est pour ça, non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais je pense qu'à l'inverse, leur irrégularité qui les pénalise en championnat n'est pas forcément un frein quand tu as un gros effectif et une grosse motivation sur des matchs à élimination directe.
Porto, ils sont invaincus, ils enquillent les moins frais. Ça va être très très compliqué.
La Ligue 2, les gars, Grenoble, Toulouse, c'est reparti en deuxième mi-temps, Jérémy.
Ouais, c'est
C'est reparti depuis 9 minutes, Gilbert, ici au Stade des Alpes. Toujours 0-0 entre Grenoble, 19e et relégable, et le leader toulousain, le TFC, qui va devoir faire un petit peu plus dans cette deuxième période pour espérer l'emporter, accrocher une quatrième victoire consécutive et reprendre son matelas de 3 points d'avance sur le Paris FC qui est revenu à hauteur ce week-end. Les Toulousains qui ont le contrôle du ballon depuis le début de cette rencontre. Mais attention à cette action grenobloise, finalement, bon retour défensif. Et Maxime Dupé va pouvoir se dégager. Toujours 0-0 entre Grenoble et Toulouse après 54 minutes de jeu au Stade des Alpes.
Alors j'aimerais, on a 3 minutes devant nous, il faut que je vous donne des nouvelles de Dimitri Ribolovlev, le patron de Monaco. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'avec ce qui se passe en Ukraine et avec les différentes décisions de l'Union Européenne concernant les avoirs russes, il pourrait y avoir des conséquences sur Monaco. Et bien ce soir le palais princier a communiqué en gros sur la situation. Je vous lis une partie du communiqué. Conformément à ses engagements internationaux, la principauté a adopté et mis en œuvre sans délai des procédures de gel de fonds et de sanctions économiques identiques à celles prises par la plupart des États européens. Mais on précise, donc il y a 362 Russes et Biélorusses concernés à Monaco, ainsi que quelques sociétés qui sont visées par ces mesures, mais pas Dimitri Ribolovlev.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, Ribolovlev n'a plus aucun actif en Russie. Et depuis longtemps. Alors en 2010, il détenait encore 65% du groupe Ural-Kali, géant donc de la potasse. Et c'est ça qui l'a rendu multimillionnaire. Et en fait, donc déjà, il est pas. Vous savez qu'il est plus hors de Russie parce que justement, il n'était pas proche de Poutine et qu'il fallait qu'il en gros qu'il s'échappe en quelque sorte. Donc à Monaco, on fait savoir que Ribolovlev a quitté la Russie il y a maintenant plus de 10 ans et n'a plus aucune activité sur place. Donc, il est bien spécifié
mais à contrario,
que Ribolovlev n'est pas concerné.
Je pose la question au vu de la situation mondiale actuelle et de ce qui nous oppose à la Russie et à son président. Si Ribolovlev, je connais la situation de Ribolovlev et donc pas de problème. Si Ribolovlev était interrogé demain avec Petrov, là, et vous soutenez la politique de Vladimir Poutine. Non, mais imagine, et il dit oui, oui, nous soutenons notre président. Qu'est-ce qu'on fait ?
Chacun est libre d'avoir l'opinion qu'il veut.
C'est-à-dire ?
Écoute, il a le droit d'avoir une opinion, non ?
Ouais, mais nous, est-ce qu'on joue contre eux ? À partir du moment où t'es en guerre contre eux ?
Et t'es pas en guerre contre eux.
Est-ce que, au vu de la situation actuelle, est-ce que tu as le droit de refuser ? Moi, je me dis que oui. Moi, en tout cas, je ne jouerai pas pour eux.
De toute façon, c'est hypothétique, parce que je pense qu'ils répondront jamais à la question.
Je me dis, est-ce que si on pose la question, en l'occurrence pour Ribolovlev,
on l'a pas assez dit clairement. Ribolovlev est en conflit avec Poutine. Non, mais il s'est barré.
On le sait, ça. On le sait. Il a réagi. Mais c'est bien de le dire.
Il y a pour ça qu'il s'est réfugié.
Je dis à contrario. Si tu as un dirigeant russe d'un club et tout.
Je pense pas que ça rentre dans le cadre, Daniel. Enfin, tu peux, à titre personnel.
Tu les exclus de la Coupe du Monde.
Non.
On refuse d'aller jouer chez
nous. Non. T'exclus l'équipe nationale qui est liée à la Fédé, qui est sur délégation de l'inhumation de l'État, comme en France. Moi, je trouve, au passage, vous savez, mon débat sur les hymnes au début des matchs, je veux dire, c'est parce qu'ils ont dit que le FIFA, au début, c'est naze, au lieu de prendre la décision qui s'imposait, ils ont commencé par parler des hymnes, etc.
Les hymnes et les drapeaux.
Je pense que les hymnes, même les drapeaux, pour moi, ça a un affaire parce que pour moi, là, dans les circonstances qu'on vit actuellement, les hymnes et les drapeaux, ils ont une signification qui dépasse de loin le foot et le foot, dans ces cas-là, ne sert à rien si ce n'est qu'à faire des messages de solidarité. Il fallait exclure effectivement la Russie, c'est fait de la Coupe du Monde.
Tu joues contre une équipe de tes ennemis si tu sais que c'est un pays.
Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si à titre individuel, toi, t'es président de Nice ou d'une autre équipe et tu dis, tu dis à la Ligue de foot, moi, je ne jouerai pas contre Monaco, t'as tout à fait le droit de le faire. Mais en tant que décision, puisque c'est la question globale de dire est-ce qu'on exclut en gros Monaco du championnat, on n'est pas du tout dans le cas d'un État attaqué directement par la Russie en l'occurrence. Et même si Ribolovlev défendait moralement entre guillemets Poutine, lui-même ne représente pas l'État
russe. C'est le cas. Daniel.
Non mais même s'il le défendait,
les clubs de PL ils jouent bien contre Newcastle. En France, on joue bien contre le Paris Saint-Germain.
T'es en guerre contre eux,
Daniel.
T'es en guerre contre eux?
Non, mais
il est innocent, là.
Ah non, c'est toi. Alors, pour le coup, pardonne-moi, mais là, tu dis une énorme connerie.
Je vais te dire pourquoi, c'est pas une énorme connerie.
En fait, il y a un truc dans la vie qui est une frontière. Une frontière entre la guerre et pas la guerre.
D'accord, mais là,
la guerre et la diplomatie.
Française n'est pas concernée.
Avec le Qatar, tu as des relations diplomatiques.
Ah, mais Daniel,
avec la Russie aussi.
Si tu les romps, la question, elle est là.
Pour l'instant, c'est pas le cas.
Je suis en train de te poser un cas de figure. si tu romps la relation diplomatique parce que tu es en guerre. Si par exemple Poutine déclare la guerre à l'Union européenne.
Ah, ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose.
On est quand même en présent. Excuse-moi, le Qatar t'a jamais menacé de t'envoyer une bombe sur la gueule. Poutine l'a fait.
Ah, pas chez
et
nous.
Il a dit
si quelqu'un aide l'Ukraine, il doit s'attendre à des représailles. Ah non, mais
Est-ce qu'on va réavoir les débats qu'on aura toi et moi sur le financement du terrorisme en France?
Mais c'est une connerie, Jonathan.
Non, c'est une énorme connerie. Il y a des enquêtes du Temps qui ont été faites.
Mais c'est pas parce que tu racontes n'importe quoi que t'as raison.
Et la
relation diplomatique.
La Banque qatarienne à Londres, c'est des conneries?
Oui.
Oui, t'es sûr?
Écoute,
eh ben, j'ai un dossier 300 pages à la maison, je te le filerai. Ne mélange pas, tu le diras.
C'est des pays avec qui tu as des relations que tu peux juger bonnes ou pas bonnes. Et ça va concerner une tonne de pays dans tes relations diplomatiques, et tu sais très bien ce qu'est le cynisme de ces affaires-là.
Bien sûr.
Il y a un moment qui s'appelle la déclaration, t'es en guerre ou t'es pas en guerre.
Mais pour l'instant, ça, c'est quelque chose de différent. La guerre à la France.
Non, mais je suis en train de te poser le cas de figure.
Si la guerre est déclarée, il n'y a pas de doute à avoir. Évidemment, non, tu joues pas contre eux.
C'est de ça dont je parle. Oui. Sauf qu'il y a quand même une nuance. Parce que toi, je vois bien, il y en a plein là qui sont là. Ouais, le boycott machin. La Russie, t'es bien allé jouer à la Coupe du Monde 2018 là-bas. Pourtant, tu partages pas leurs valeurs.
Non.
Ok. La Chine, c'est la même chose. Tu partages pas leurs valeurs. Mais ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. En revanche, si le pays dit « si vous bougez, je vous envoie la bombe », c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Jonathan. Il y a une grosse différence.
Il faut pas comprendre.
Il y a une grosse différence. Dans le cas du Qatar, je sais très bien tout ce qu'ils font. Sauf que tu entretiens avec ce pays une tonne de relations.
Mais comme avec la Russie. C'est pour ça que je te...
Sauf
ça,
que
ça
le Qatar a jamais dit « si tu bouges, je t'envoie une bombe ». C'est pas pareil. C'est pas pareil, Jonathan. Il y a une grande différence. Tu peux pas jouer sur les mots.
Pour l'instant, parce que la situation,
qu'est-ce que tu fais si Poutine, à un moment, continue à s'exciter?
Si la guerre est déclarée, chose dans laquelle on est très très loin, si la guerre est déclarée, évidemment, je te rejoins.
On est tout prêt.
Évidemment, je te rejoins.
Bah voilà, moi je te dis juste qu'il a quand même déclaré. Si quelqu'un vient en aide à l'Ukraine, il faut qu'il s'attende à éventuellement à des représailles. Ça c'est pas dit ni par nos ennemis, ni par le Qatar, ni par personne. C'est pas dit. C'est des mots qui sont forts.
Mais il faut faire attention aux mots. Mais bien sûr.
Il y a une différence entre la diplomatie et le cynisme des affaires internationales et le mec qui te menace. C'est pas pareil.
Allez, à tout de suite. On revient au foot. On va parler de Rennes dans quelques instants, messieurs dames. La réussite offensive rennaise décryptée dans l'after. Puis on reparlera des affaires russes tout à l'heure.
L'after foot.